suite dans cette idée d'esthétique du banal et de finalement tout regarder sous un œil esthétique, c'est que c'est peut-être finalement l'art le premier qui, en tout cas pour l'Europe, s'est intéressé à cette esthétique même du déchet, ou enfin à montrer que le déchet peut avoir une esthétique. Moi, je travaille sur bricolage et sur Braque, Picasso, etc. Donc c'est exactement ça, c'était de se dire que peut-être que cette prise de conscience que tout est esthétique, elle est aussi passée par la case art pour sortir ensuite. C'est-à-dire que l'art a investi d'autres éléments, a investi d'autres champs que ceux qui étaient traditionnellement admis, ce qui a permis ensuite d'ouvrir l'esthétique à d'autres champs.
Ouais, j'aurais tendance à penser que tu as raison. Même avec Dada, même avec... Enfin, je pense qu'effectivement, il y a eu des trajets, mais bon, j'en ai pas fait l'histoire. Il faudrait en faire l'histoire, quoi. Pour essayer de voir effectivement la place que tiennent les mouvements artistiques dans cette valorisation du banal et de l'ordinaire. Même Boltanski, mais alors Boltanski, par exemple, il venait des sciences humaines. Enfin, les emprunts ont été très, très croisés, en fait. Il faudrait essayer de voir un peu les circulations, mais c'est fort possible.
Puis les Américains qui ont beaucoup lu Dewey, justement. Ouais. Capro, qui est un des promoteurs de l'esthétique.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis fan de Capro. Donc,
je peux poser une question.
Oui, bien sûr.
Vous avez mis en avant le fait qu'il fallait justement montrer l'importance, l'urgence, voire de cette question de la prise en compte de l'esthétique aujourd'hui. Et je me demandais finalement si ce n'était pas plus que mettre en valeur cette question-là, prendre acte d'un changement de paradigme. Je prends l'exemple des grands ensembles que vous preniez vous-même tout à l'heure. Ces grands ensembles, au départ, ils reposaient sur des principes esthétiques.
Ouais.
Formel. Le fonctionnalisme, ouais. la forme découle de la fonction. Donc c'était la question du beau, enfin, chez les grands architectes, en tout cas fonctionnalistes. Après, effectivement, leurs principes ont été quelque peu...
Ils ont subi.
Voilà, oui. Mais est-ce que c'est pas plutôt simplement qu'aujourd'hui, la question de l'esthétique, elle se pose plus de la même manière qu'elle se posait avant? Autrement dit, tout simplement, le goût a changé et que ce qui prime aujourd'hui, parce que ça manque, c'est plutôt du vert, alors qu'autrefois, l'esthétique moderniste était au contraire une esthétique du béton, des matériaux purs.
Bah, l'esthétique moderniste, elle est très contemplative au sens spectaculaire. C'est-à-dire quand tu vois, par exemple, le rôle dévolu à l'espace vert comme un espèce d'espace que tu admires de loin, c'est pas un investissement corporel. La différence avec cette esthétique environnementale qui s'inscrit après les travaux de Merleau-Ponty, après tous ces travaux, où véritablement on est là, on est dans la nature. C'est-à-dire que, et si on va sur le lien de la reconnexion à la nature, enfin, donc on trouve en esthétique environnementale, c'est plutôt dans le droit fil du romantisme allemand qu'il faudrait. On va faire un bouquin avec une collègue qui est historienne de l'art historienne du romantisme allemand, pour voir les prolongements qu'il y a entre cette esthétique environnementale et... Parce que l'idée, c'était la même, hein, c'était de retrouver ce lien à la nature, à une nature qui serait primordiale, éprouvée premièrement, avant tous les artifices. D'une certaine manière, on retrouve tout un courant d'idées. Alors que l'idéologie moderniste, elle a jamais été... Elle était sur... beaucoup plus formaliste que qu'investi corporellement, quoi. C'est, alors bon, pourtant il y avait le modular, il y avait tout ça, mais c'était plutôt des calculs. Enfin, quand on voit le rôle du spectaculaire et de l'oculaire dans l'idéologie moderniste, c'est pas du tout la même. Je pense qu'il y a vraiment, effectivement, vous avez raison, un changement de une évolution du paradigme esthétique en lui-même. Mais bon, voilà.
Il n'y a pas une contradiction dans cette expression-là, parce que la question environnementale, elle est moderne, profondément moderne. C'est le rapport entre l'homme et la nature de manière très distanciée.
Ouais.
Et alors que le rapport esthétique, il souhaiterait remettre dans le sensible et donc réintégrer, si possible, le plus possible
la nature
dans le processus.
Oui, c'est ça.
Alors du coup, est-ce que l'expression elle-même, elle n'est pas un peu paradoxale? Et du coup, est-ce que c'est pas...
C'est ce que disent les Chinois.
La question, voilà, est-ce que c'est pas un artifice d'une certaine manière, oui, pour essayer de coller deux choses ensemble qui ont du mal
Ouais.
À vivre conjointement.
Mais c'est ce que disent les collègues chinois qui disent effectivement que la question c'est de restituer plutôt cette nature en nous, enfin ce rapport sensible, etc. Après, c'est vrai que j'ai utilisé plutôt esthétique environnement. Il y en a qui utilisent délibérément l'expression eco-esthétique, mais je préfère esthétique environnementale parce que ça me semble dans le cadre français plus audible, plus lisible, mais peut-être je me trompe. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut concerner la fabrique de l'environnement, alors qu'éco-esthétique, on n'entend pas tellement ça. Mais bon, encore une fois, ça peut... C'est des évolutions dans la réflexion aussi. Mais oui, tu as raison, tout à fait.
Et après, par rapport à la connaissance, hein. Moi, j'ai fait un exposé qui était à l'envers, qui partait de la connaissance
oui.
pour arriver à l'esthétique.
Ouais.
Et justement, la manière d'intégrer la connaissance, il y a deux manières de faire, enfin deux manières de penser. Soit c'est l'un est primordial et ou l'un doit l'être, et, ou soit l'un l'est de toute manière. De toute manière, c'est à partir de ça qu'on agit. Mais dans tous les cas, enfin, il me semble que dans tous les cas, en délaissant le savoir-savoir, dans tous les cas, notre regard est habité de connaissances autant que d'expériences. Aujourd'hui, tel qu'on est, on a autant de savoirs acquis que de savoirs qui sont innés. Et dès qu'on regarde, dès qu'on a un jugement esthétique, on porte un regard sur un objet, comment est-ce qu'on arrive, enfin, c'est une question vraiment que vous posez, hein, comment est-ce qu'on peut séparer les champs pour, hein,
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, que l'expérience esthétique... c'est pas forcément cette sensation que tu peux avoir de voir de nouveau les choses, que tu peux avoir des fois face à une œuvre d'art, que tu peux avoir dans un environnement donné, cette sensation vive, cette extrême sensation, si tu veux, c'est pas une sensation qui fait intervenir la connaissance. Effectivement, c'est pour quiconque l'a éprouvé, tu vois bien à quel point ça ne fait pas intervenir la connaissance. Toi, tu parles du jugement esthétique, c'est-à-dire c'est pas de l'expérience, c'est pas celle de vivre quelque chose. Par exemple, quand tu lis un récit qui te touche énormément, qui te fait éprouver, j'en sais rien, le Grand Ouest ou je sais pas, enfin, toi, quelque chose sur lequel tu vibres, tu vois bien que ce sur quoi tu vibres ne concerne pas des connaissances. Ces connaissances, tu vas les ramener probablement après dans le jugement que tu vas élaborer à l'égard du travail en question ou de l'œuvre ou de l'environnement. Ça, c'est une première réponse qui me semble que l'expérience esthétique et le jugement esthétique, c'est quand même des choses qui relèvent de temporalités différentes, à mon sens. Et la deuxième chose, et ça je l'ai vu à Strasbourg, et je l'ai vu aussi, c'est qu'il y a une vraie défiance de la science pour les gens. C'est-à-dire que c'est pas qui effectivement, quand tu as élaboré un jugement relatif à la qualité esthétique de ton quartier ou des animaux, de l'environnement qui s'y trouve, tu vas trimballer des connaissances. Mais d'une certaine manière, moi, ce qui m'a frappé, mais surtout dans le cas de la pollution, c'est comment ça se fait que des asthmatiques qui vont toutes les semaines à l'hôpital ne veulent pas avoir affaire... Enfin, il y a quand même une question qui se pose. C'est la configuration du savoir commun. Comment on se fabrique un savoir concernant son environnement ? Eh bien, ça, c'est aussi un peu une défiance de la science. Et pourquoi il y a une défiance de la science ? Parce que d'une certaine manière, on ne sait pas quoi en faire. Le changement climatique, c'est une formidable abstraction. Qu'est-ce que tu en fais dans la vie de tous les jours pour essayer d'expliquer un peu l'environnement, ton environnement et la manière dont il est configuré ? Moi, personnellement, à part me dire, bon, on n'a pas eu un jour de beau temps depuis novembre, et je ne suis même pas sûre que c'est attribuable au changement climatique, je n'ai pas de moyen de rendre moins abstrait.
Merci beaucoup.
Merci.